Nous serons au chapitre 8 de Matthieu et nous allons commencer à lire au chapitre 8 au verset 18. On n'est pas trop pressé d'aller en avant avec ce texte. Ça serait bien peut-être de méditer un peu, mais j'ai choisi quand même trois histoires à méditer pour notre moment cet après-midi ensemble. Bon. Vous vous souvenez qu'avant chapitre 8, le verset 18, Jésus commence à faire des miracles. Il accueille le rejeté, donc le lépreux, et il le purifie. Et cela nous fait penser à Jésus qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur qui est pur, car ils verront Dieu. » Deuxième personne qu'il rencontre, c'est un Romain, un centenier. Ce sont les deux miracles, les premiers miracles que nous avons dans l'évangile de Matthieu qui sont spécifiés. Un lépreux et puis après un Romain. Et à ce Romain, il guérit son serviteur en louant sa foi. Il vise pas un juif qui vit depuis sa plus jeune âge, une foi en Abraham et dans le Dieu de l'Ancien Testament. Mais il choisit un Romain, un centenier, qui vient à Jésus et Jésus félicite sa foi en disant que cette foi qu'il a, c'est plus grand que même les enfants d'Abraham. Et donc, tout ce que Jésus fait ici, après son enseignement sur le serment sur la montagne, ce sont des choses qui nous étonnent. C'est des choses qui vont briser les idées des gens de l'époque de qui est le Messie et ce qu'il fait. Et donc, nous voyons qu'il vient avec un royaume. Et on va voir que ce royaume, il y a trois choses qui sont là. Première chose, que c'est un royaume surprenant. C'est un royaume surprenant. C'est-à-dire que Jésus dira, dans l'histoire que nous avons lue, il va dire que les animaux ont un endroit pour se reposer. Ils ont un chez eux. Mais pour le Fils de l'homme, ce n'est pas le cas. Que les renards, que les hérissons, que les marmottes, ils ont un endroit où ils vont vivre, mais moi, je ne sais pas où je vais poser ma tête. Et donc, à ce moment-là, la demande du Messie qu'on le suive totalement, entièrement et intégralement, c'est ce que Jésus va dire à la personne qui vient à lui, pour dire, je te suivrai partout. Et puis, la deuxième chose que nous voyons, que il n'y a rien qui puisse arrêter l'avènement de son royaume. Et cela va se passer à travers la nature qui va essayer de noyer Jésus et ses disciples dans la barque quand ils traversent la mer. Nous verrons que Jésus est plus fort que la nature, que la foi, c'est ce que Jésus appelle à ses disciples de vivre. Et on verra, même à travers cela, que Jésus est plus fort que les ténèbres, que les tempêtes, et finalement qu'il est plus fort que la mort. Et la troisième chose que nous voyons, c'est que le royaume est un royaume libérateur. Car une fois arrivé à l'autre côté, il y a deux démoniaques remplis de démons. Ce sont les champions de Satan qui vont se soumettre avec un seul mot à Jésus. Ils vont se soumettre avec un seul mot à Jésus. Et le refus de ceux qui viennent pour voir ce qui s'est passé, le refus de suivre Jésus. Et même la demande qu'ils quittent leur région. Bon, je vous appelle, disons, je vous invite à lire donc au chapitre 8, le verset 18 à 22. Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Donc, c'est la mer de Tibériade, de Galilée. Donc un scribe s'approcha de lui et dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit, Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre parmi les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, Suis-moi. Et laisse les morts ensevelir l'homme. Bon, prions ensemble. Père Céleste, nous aimons Jésus et nous savons qu'il est le Christ. Mais nous prions aussi qu'à travers ta parole et à travers les expériences que nous vivons avec lui, que nous puissions le connaître de mieux en mieux, de devenir des gens qui ressemblent à lui, pour agir comme il a agi, et puis pour vivre une vie, comme la sienne. Parce que le besoin que nous avons, le désir de notre cœur, c'est d'être transformé pour ressembler à Jésus. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Vous savez, quand nous lisons l'Évangile, donc on devient un enfant de Dieu, on croit à toutes ces différentes choses, nous renonçons à une vie qui est égoïste, nous sommes baptisés en Christ Jésus et nous commençons à vivre avec lui et nous sommes remplis de joie, la joie de notre salut. C'est une vie de reconnaissance que nous avons. Mais il nous faut très peu de temps aussi après de nous ressentir un peu pas très confortable dans cette vie parce qu'on sait qu'il y a la joie du salut, mais il y a l'appel à grandir. Et parfois, ça crée une petite tension en nous. C'est-à-dire, oui, je suis heureux de vivre comme ceci avec Dieu, je suis heureux de recevoir cette vie éternelle, mais il y a aussi une insatisfaction parfois de notre manière de vivre. On cherche à grandir avec lui. Il y a un grand ouf, oui, je suis avec Dieu, mais il y a aussi l'inconfort que parfois nous sommes loin de ce que nous voulons être. Est-ce que vous ressentissez cela de temps en temps? Est-ce que c'est un sentiment que vous avez que, oui, je suis heureux d'être avec lui, mais je vois quand même mes luttes contre le péché, la lutte contre le mal, combien j'aimerais être de plus en plus comme lui. Et dans notre texte ici, nous avons deux personnes qui avance vers Jésus. L'un est un scribe, et je crois qu'il est un disciple de Jésus. Un scribe, c'est plus ou moins un docteur de la loi, c'est celui qui copiait la loi pour que les autres puissent le lire. Et il commence, maître, okay? Maître, je te suivrai partout. Et donc, il semble que c'est un disciple. Peut-être c'est juste avant de monter dans la barque qu'il dit cela. Et Jésus donc tourne vers cette personne et il parle de l'inconfort qu'on aura de vivre le royaume avec lui. Alors, notons bien, sans doute, ce scribe pense que Jésus est le Messie. Ça veut dire, il pense que Jésus est le prince. Il croit que Jésus est le roi. Et un roi habite où? Dans un palais. Okay? Vous vous souvenez, il y a quelques années en arrière, que l'un des chefs de gouvernement africain était à la palace de Lausanne et qui a fait une facture de plus d'1 million de francs. Ben, c'est normal. C'est le chef d'un pays qui habite une année au palace. Donc, c'est normal qu'il vive de cette manière. Et quelqu'un s'approche de Jésus, qui est le Messie, celui qui vient pour établir son royaume. Et Jésus dit, écoute, les renards, les oiseaux, les hérissons, okay, ils ont une vie plus sûre que la mienne. Ils savent où ils vont poser leur tête, mais le Fils de l'homme, ce n'est pas le cas. Et Jésus informe donc les disciples que cette vie ne sera pas une vie facile. On pourrait donc à ce moment-là dire, bon, chaque disciple doit vivre dans le même inconfort de Jésus, comme un pèlerin sur cette terre, et c'est vrai. Mais Jésus est en train aussi d'assembler un groupe de disciples qui vont donc être ses missionnaires. Il y aura 70 personnes qu'il va envoyer plus tard. Il y aura aussi les 12 qui vont vivre avec lui. Et je crois que Jésus est en train de parler de ces personnes qui vont former le cercle interne, disons les plus proches, et que eux, il y aura quand même des difficultés qui sont plus importantes que pour d'autres personnes. Et donc Jésus dit à cette personne l'inconfort de l'appel. Pour la deuxième personne, nous voyons, il dit, bah, laisse-moi enterrer, je te suivrai, mais laisse-moi enterrer mon père. Et Jésus dit, donc laisse les morts enterrer les morts, mais toi, suis-moi. Et ceci nous semble être très, très dur. Et c'est dur. L'idée, c'est que laisse les gens qui sont spirituellement éloignés de Dieu s'occuper de cette situation. Mais toi, si tu vas suivre la mission que je te donne, c'est-à-dire devenir ce missionnaire, il y a autre chose à faire. Toi, tu me suis et les autres vont s'occuper de ces autres choses. Et je crois ici, c'est aussi cet appel qu'il offre à ces 70 ou finalement aux 12 qui ont un appel qui est quand même plus dur, plus difficile que la plupart des disciples. Mais le rappel est là pour nous quand même, que Jésus est en train de dire à tous ceux qui veulent le suivre qu'ils doivent recentrer leur vie sur lui. Ils ne peuvent pas juste avoir une petite part de Jésus. Ils doivent accepter la totalité à tel point que Jésus plus tard dira, si quelqu'un veut venir après moi, il doit quoi? Renoncer à soi-même. Il doit se charger de sa croix et il doit me suivre. Et même ici, si ici, il est en train de parler à ses missionnaires ou ses groupes intimes de disciples, et donc pour eux, il y a des exigences qui sont plus importantes. L'appel est quand même pour nous tous de savoir que Jésus doit être au centre de tout. Il doit être celui qui est au cœur de notre vie. Un des scribes, donc au scribe, il dit, il y a une vie qui ne promet pas de luxe. Une vie qui est difficile. À l'autre, il dit que ma relation avec toi va toucher les relations les plus intimes de ta vie. C'est-à-dire la relation que vous avez avec les gens les plus proches de ta famille. Et combien de fois Jésus a dit que même son évangile allait devenir un point de division entre lui et entre les gens et leurs enfants, entre les gens, disons, entre les familles, entre les parents, entre les beaux-parents, entre les belles-filles et les beaux-fils. C'est cela que nous voyons dans nos textes. Donc Jésus, il parle de cette façon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus approche les gens, il offre cette relation d'intimité avec eux, et la danse commence. Est-ce que les gens vont accepter à danser avec Jésus, à être avec lui, ou est-ce qu'ils vont plutôt rejeter? Est-ce qu'ils vont entrer et prendre les mouvements de Jésus au point où ils peuvent le suivre, même jusqu'à la mort? Ou est-ce qu'à un moment donné, ils vont dire, bon, j'arrête la danse, et je vais danser avec quelqu'un d'autre. Et la relation commence ici avec ces discours qui sont la réflexion. Jésus, plus tard, il dira, quelqu'un qui va construire une tour, il va s'asseoir avant pour savoir s'il a de quoi le faire. Pourquoi il dit cela? Parce qu'ici, il sait que être un disciple de Jésus prend toute une vie. C'est le centre de nous tous. Nous tous, et que ça change toutes les relations de notre vie. Et donc, comment entrer dans cette relation? Il y a des choses à accepter, il y a des choses à rejeter. On doit lui prendre toute sa vie et le suivre. Est-ce que nous cherchons donc notre propre épanouissement? Cherchons-nous des choses égoïstes pour nous? Ou est-ce que nous cherchons vraiment à connaître Dieu? Si connaître Dieu est le but de notre vie, donc, d'entendre ces différentes choses, ce semble tout à fait normal que Jésus dise, OK, bon, c'est moi avant la famille. Ah, si tel est le prix de connaître Dieu, je suis prêt à l'accepter, si tel est notre besoin. Mais si le besoin que nous avons, c'est, ouais, bon, je veux être épanoui, je veux que Jésus prenne soin de tous mes petits besoins, à ce moment-là, donc, nous allons avoir des difficultés avec Jésus. Bon, c'est comme cela qu'il commence. Il dit que je suis pas là pour satisfaire à vos propres besoins. Moi, je suis en train de vous amener à Dieu. De vous amener à Dieu. Et à tel point que vous vous souvenez dans le serment sur la montagne que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume au-dessus de toutes autres choses. Quand Jésus devient le centre de notre vie, nous pouvons bien danser. Parce que nous suivons la même harmonie, le même rythme, nous faisons les mêmes mouvements, parce que nous ressemblons avec lui. Et pour ces personnes, Jésus dit que c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Et de nouveau, je crois que ces rencontres que nous avons ici, c'est pour les partenaires les plus intimes, missionnaires de Jésus. Mais l'appel quand même nous touche, n'est-ce pas? Que nous soyons des gens qui dansent avec les mouvements de Christ. Et donc nous prions, Père céleste, nous croyons en toi et nous t'aimons et nous aimons ton Fils et nous savons qu'il n'y a pas de vie en dehors de lui. Et nous confessons que chaque fois que nous comptons sur notre propre pouvoir et sur nos propres efforts, nous nous éloignons de toi. Nous voulons te donner tout, vraiment tout. Nous voulons que tu sois le centre de tout ce que nous vivons, pour toujours, car Christ a tout donné pour nous. Deuxième histoire. Jésus entre dans une barque. Écoutez ce qui se passe. On peut le chanter, mais la mélodie est beaucoup trop difficile. Si vous voulez pas le lire ici, vous pouvez lire le chant dans les livres rouges, le 304. Mais que je dis, c'est beaucoup trop difficile à chanter, mais écoutons ce qui se passe. Matthieu dit, Jésus monta dans la barque, donc chapitre 8, le verset 23. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors, il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, Jésus, y dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, « Quel est celui-ci ? Car même les vents et la mer lui obéissent. » Ah, les enfants chantent « Avec Jésus dans le bateau, tu peux rire de la tempête, rire de la tempête, rire de la tempête. Avec Jésus dans le bateau, tu peux rire de la tempête, en route vers le ciel. » C'est ça qui chantent les apôtres. Disons les enfants, c'est pas ça qui chantaient les apôtres. On est d'accord. Ils sont sur le lac de Galilée, c'est 21 km par 13 km, son point le plus large. C'est 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. Des vallées qui canalisent les vents qui viennent de partout. Les témoins disent qu'en 30 minutes, le lac peut passer de très calme à une tempête dangereuse et meurtrière. Et donc, Jésus, avec ses disciples, et nous nous souvenons qu'il y avait des pêcheurs, des gens qui connaissaient le lac très bien, ils sont là, la tempête vient, et les vagues commencent à entrer dans la barque. Et que faisait Jésus? Ben, Jésus, quoi, il dormait. Juste pour dire, de dormir, c'est sain, d'accord? Si vous dormez, vous faites comme Jésus, sauf essayer de ne pas trop dormir pendant le culte, ok? Mais dormir, c'est quand même quelque chose que Jésus a fait. Il est fatigué. Jésus dort, eux, ils ont peur, ok? Jésus dort à cause de sa fatigue et grâce à sa foi en Dieu, les disciples avaient laissé leur foi sur la rive. Okay? Donc, ouais, on croit bien, mais maintenant on commence à avoir des doutes. Jésus dit un mot et la tempête est apaisée. Et le miracle porte les disciples à une contemplation plus profonde de Jésus. Qui est celui-là? Que même les vents et la mer lui obéissent. Et où est le manque de foi? Alors, moi, je ne crois pas, si je peux vous dire, je ne crois pas que le manque de foi, c'est qu'il ne croit pas que Jésus puisse calmer la tempête. Ce n'est pas ça. Ça n'entre même pas dans leur esprit. Okay? Le manque de foi, je crois, c'est que si Jésus est le Messie, qu'est-ce qui ne peut pas se passer? Bon, il ne peut pas mourir dans le lac à ce moment-ci. Ça, c'est pas le dessein de Dieu. Alors, son dessein est de mourir sur une croix, mais pas d'être mourir noyé dans le lac. Et je crois que si eux, ils avaient compris un peu plus l'enseignement de Jésus jusqu'à là, ils sauraient que Jésus est venu pour accomplir le plan de Dieu. Et sa vie est entre les mains de Dieu. Et donc, leur foi les aurait amenés à dire, « Même si la tempête est terrible, Jésus va survivre cela. Jésus sera protégé par son Père. » Je crois que c'est la première chose. Deuxième chose que j'aimerais juste que vous regardiez ici, c'est que quand Jésus réveille ici, il dit, « Pourquoi avez-vous peur ?» Okay? Alors, je suis désolé, mais ça, c'est une question évidente. Okay? Pourquoi ils ont peur? Ils croient qu'ils vont mourir. Okay? Il y a des vagues qui entrent dans le bateau, la barque, il y a les tempêtes, il y a le vent. Et donc, on sait pourquoi ils ont peur. Mais notons bien que cela fait petite ombre ou une petite réflexion de quelque chose qui se passera quand les disciples verront Jésus à sa résurrection. Quand il se réveille à sa résurrection, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, n'ayez pas peur. Okay? Donc, Jésus est endormi, il réveille, pourquoi avez-vous peur? Jésus est endormi dans la mort, il se réveille et dit quoi? N'ayez pas peur. Et donc, il y a quelque chose ici qui peut-être est un type de préfiguration de sa résurrection. À tel point qu'à la fin de Matthieu, nous remarquons qu'une parole à l'ascension, c'est aussi que tout pouvoir m'a été donné. Et Jésus manifeste ce pouvoir en calmant la tempête, en calmant la mer. Et donc, qui est celui-ci? Bon, c'est celui qui reçoit tout pouvoir et toute autorité. Et comment manifeste-t-il cela? Bon, en calmant la tempête. Je vous lis un petit psaume, okay, juste une partie, le psaume 89, le verset 9 et 10. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, éternel, ta fidélité t'environne. C'est toi qui domines l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. Bon, qui est roi de la mer? Bon, c'est Dieu. Et Jésus qui reçoit toute autorité, c'est lui qui apaise les vagues. C'est lui qui fait cela. Et donc, l'importance de la question, qui est-il? Ah, c'est le Fils de Dieu, celui qui a toute autorité, celui qui apaise les tempêtes. Bon, dernière histoire. Je sais qu'il y a plus de choses que vous voulez dire là-dessus, mais on va quand même continuer avec la dernière. C'est le verset 28. Donc, Matthieu 8, 28. Quand Jésus eut abordé sur l'autre rive, dans le pays de Gadaréens, deux démoniaques, sortant des tombeaux, vinrent à sa rencontre. Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Ils lui crièrent, que veux-tu de nous, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons suppliaient, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Il leur dit, allez! Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Alors tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville pour tout raconter, et spécialement ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de s'éloigner de leur territoire. Bon. Ici, nous voyons non seulement que Jésus a un royaume qui est surprenant. Et le roi, il sait pas où il va dormir la nuit. Non seulement un royaume qui est irrésistible dans le sens que le dessein de Dieu va s'accomplir, même si la mer essaie de mettre Jésus à mort. Mais nous apprenons ici que nous avons un royaume puissant au-dessus de toutes choses. C'est l'histoire de David et Goliath. David, le berger, vient et dit, qui est cet homme qui défie l'Éternel? Et Goliath, qui a presque 3 mètres, qui a des bras comme cela, des jambes comme ceci, il a un garde-corps qui marche devant lui avec ses armes. Il dit, qui est ce chien qui vient? Il va, moi, je vais donner son corps aux oiseaux. C'est ça que nous avons. Qui est Goliath dans notre histoire? Bon, Goliath, ce sont les deux démoniaques, remplis de démons. Nous apprenons à un autre endroit qu'ils s'appellent Légion, remplis de démons. C'est les Superman du Satan. C'est les représentants. Et Jésus, dans un sens, il dit ici, on va faire une bataille. Si moi je gagne, c'est mon royaume qui gagne. Si toi, tu gagnes, vous deux, vous gagnez, c'est votre royaume qui gagne. On va faire une petite bataille. Et vous savez comment cela commence? Ça commence avec un mot. Allez. Un mot. Allez. Bon, nous remarquons pas mal de choses dans ce texte. Matthieu est très restreint dans la description des choses qui se passent. Si vous voulez savoir un peu plus, allez chez Luc et vous allez apprendre toutes les différentes choses qui sont là. Mais ce sont deux démoniaques qui vivent dans les tombeaux. C'est l'impureté, n'est-ce pas, qui est là. Ils sont redoutables. Personne n'osait passer par là. Il y avait de nombreux démons en eux. Et Jésus est le Fils de Dieu. Et quand ils voient Jésus, ils disent, « Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ?» La bataille est déjà gagnée, vous voyez? La bataille est déjà gagnée. « Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ?» L'idée, c'est qu'eux, ils savent qu'il y a un jugement qui va venir et les anges et les démons de Satan donc, seront condamnés pour toujours. Ils seront fermés dans un lieu loin de Dieu, loin de chacun de nous. Et donc, ils adressent leur requête à Jésus en disant, « Mets-nous dans les porcs qui sont là, dans ce troupeau de porcs. » Et Jésus, n'aimez-vous pas comme il dit? Il dit simplement, « Allez, un seul mot. » Et les démons sont vaincus. Eux, ils courent ils vont dans les porcs, et donc les porcs vont se noyer dans la mer. Et le peuple arrive en entendant ce qui se passe, et le peuple dit pas maintenant. Pars. Okay. Bon, la bonne nouvelle, je veux que vous sachiez la bonne nouvelle, c'est pas dans Matthieu, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus va dire à tout ce que Dieu a fait pour toi. Et quand Jésus reviendra une deuxième fois, il y aura des foules qui sont prêtes à écouter ce message. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, c'est loin, éloigne-toi de nous. Nous ne voulons pas être dans ta présence. En rejet. Bon. Conclusion. Jésus dit qu'il n'y a pas de lieu pour reposer sa tête. Je vous invite dans les semaines à venir d'aller à la cathédrale de Lausanne et de regarder les vitraux derrière donc le cœur de cathédrale. Et là, vous allez voir des vitraux qui sont là. Et il y a un vitrail dans la cathédrale qui dit « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit cela en bas. Et si vous regardez en haut, vous verrez qu'il y a Joseph d'Arimathée et Nicodème et les femmes à côté. Et Jésus qui est mis dans un tombeau. Et je trouve que c'est quand même magnifique l'artiste qui a vu que Jésus n'est pas venu pour vivre dans le luxe, mais pour aller à une mort certaine sur une croix. Et quand il était mis dans le tombeau, il a fini ce que Dieu a préparé pour lui. Et il dit à la fin de sa vie, sur la croix, quoi? Il dit, tout est fini. Entre tes mains, je donne mon esprit. Je rends mon esprit. Et donc, Jésus repose sa tête dans l'accomplissement du dessein de Dieu. Jésus parle dans le bateau de ce manque de foi. Il sort de son sommet pour calmer la tempête. Et plus tard, Jésus va sortir de ce tombeau où il repose sa tête pour vaincre la mort et donner la joie à ses disciples. Et puis ici, avec un seul mot, il vainc le mal et montre que son royaume est là, le royaume de Dieu est présent. Avec un seul mot. Et c'est qui se noie dans le lac? Bon, ce n'est pas Jésus et les disciples. Ce sont les démons qui se noient dans le lac. La victoire est pour Jésus. Et quand vous savez combien est grand votre Seigneur, quand nous comprenons cela, que nous voulons qu'il soit le centre de tout dans notre vie, que nous voulons qu'à travers la tempête, que nous ayons une foi qui compte sur lui, et que finalement, nous savons que nous avons celui qui est au-dessus de tout le mal qui existe dans notre monde, notre foi grandit. Il demande d'être le centre de tout. Que ce soit le cas pendant cette semaine. Au travail, dans les relations, dans les conversations, que Jésus soit au centre de tout. Il dit que ce soit le cas. Et il nous accompagne à travers les plus grandes difficultés. Ça peut être la maladie de ceux que nous aimons, ça peut être notre propre maladie, ça peut être le rejet, ça peut être l'isolement, ça peut être même notre propre mort. Mais la réponse que nous avons à travers ces histoires, que Jésus nous accompagne à travers la tempête. Et la troisième chose, c'est que quand vous vous sentez abattu par les difficultés de la vie, ou même par votre propre péché, tournez vers Jésus. Car il donne la victoire sur le péché. Avec un seul mot, il a vaincu ses démons. Et il nous appelle donc à venir à lui. À venir à lui. Ces trois passages, je trouve, très encourageants pour comprendre le royaume de Dieu et de pouvoir vivre près de lui. C'est un défi, mais il y a une joie qui est là de savoir que nous marchons avec lui. Et peut-être, qui sait, avec Jésus dans le bateau, nous pouvons rire de la tempête.